Bonjour à tous pour cette 19e émission de l'art qui parle de notre temps. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelques expositions en cours à Paris. Deux d'entre elles vont retenir notre attention et nous occuper la plus grande partie de cette émission. La première, Aérodrome, est exceptionnelle par sa pertinence car elle démontre avec intelligence comment les œuvres gonflables ont joué un rôle central dans le passage du temps de la cybernétique à celui de notre datasphère d'aujourd'hui. La seconde, Juifs d'Orient, est une leçon d'histoire qui permet de mesurer combien la complexité des sociétés ne se résume jamais en termes de radicalité. Elle nous raconte la longue relation entre les musulmans et juifs qui ont vécu des siècles dans un voisinage, parfois mouvementé, parfois riche et constructif, dès qu'il était apaisé. La radicalité de ceux qui opposent, qui parlent de guerre, ne font que disjoindre des frères monothéistes qui parlent du même Dieu. Ils exacerbent les divisions pour mieux opposer les personnes entre elles, non à leur profit, car ce sont elles qui souffriront de toute tension, de toute guerre, mais pour leur profit personnel mesquin. Il suffit parfois juste de regarder, de lire, de s'intéresser au sujet, simplement avant de trancher sur des fondements si peu assurés et emportés par un parti pris jamais contesté. La culture, c'est tout ce qui permet de regarder, de comprendre le monde. Et à chacun de forger sa propre conviction. Et c'est bien là souvent l'interrogation : qui a raison ? Personne, même pas vous. Car il n'est de vérité que contextuelle. Même si à un moment donné, je crois à ce que je dis et c'est heureux, car cela construit ma personnalité. Dans un même temps, il faut être sûr de ses convictions et toujours avoir à l'esprit que ces convictions seront remises en cause par la vie et par vous-même. Ainsi, ceux qui prônent la division, l'opposition irréductible, sont contre la culture, qui justement est l'espace qui permet de forger ses convictions au fil du temps et de ne jamais les penser comme abouties. Cette culture est vivace dans notre pays où l'offre culturelle est si variée, notamment à Paris, je vous l'accorde. Mais Paris n'est pas si loin. Et souvent, c'est plus le fait même qu'on ne s'attend pas à ce qu'une exposition, un livre, un spectacle, un film puisse être riche pour soi, qui fait qu'on ne pense pas à y aller ou qu'on estime faussement que ce n'est pas pour soi. Ne serait-ce que quand les conditions sont optimales, pas de frais de transport, gratuité de l'entrée, on n'y pense pas, on n'a pas le temps, on pense que ce n'est pas pour nous. Je peux prendre comme exemple l'exposition de Guy Rottier au Fonds régional d'art contemporain de la région Centre-Val-de-Loire, que j'ai évoquée lors d'une précédente émission. Je vous garantis qu'elle est une bouffée d'ouverture. C'est pourquoi, même si les quelques expositions dont je vous parle sont perdues dans un océan d'expositions, je les retiens car je pense à tort ou à raison qu'elles présentent un intérêt et que j'aimerais pouvoir les partager avec vous. L'exposition « Chef-d'œuvre photographique du MoMA », la collection Thomas Walter au Jeu de Paume à Paris, offre un parcours historique de la modernité en photographie. L'esprit général de la collection de ce collectionneur allemand fait une large place à l'esthétique du constructivisme russe et du Bauhaus. Mais ce que je retiens de ce parcours, c'est la capacité d'invention grâce à la manipulation du médium photographique, que ce soit pendant la prise de vue, cadrage, contre-plongée, vue aérienne, mais aussi lors du tirage en laboratoire. Autour des années 20-30 s'inventent ces nouveaux points de vue que permet la conquête des airs. Robert Petschow, 1898-1948, photographe allemand, va être un pionnier de la photographie aérienne. La photographie bœuf labourant, vers 1930, en témoigne. De même, la photographie de Willy Rudge, qui se prend alors qu'il vient de sauter en parachute. Le cadrage se décale, la vue est plongeante, comme cette photographie anonyme nous présentant un homme au chapeau marchant. Ainsi, les cadrages, coupes, décalages, vues du haut, vues d'en bas, au travers d'une vitre comme le montre la photographie de Humboldt, etc., ouvrent sur une multitude de possibilités, pas tant de représenter la réalité que d'investir la réalité d'un regard particulier, déformé, expressif, rêveur, etc. Le procédé photographique ouvre sur d'autres mondes, surréalistes, cubistes par exemple, grâce aux manipulations conduites dans le laboratoire. Le rayogramme, la superposition de deux images dans l'œuvre de Franz la composition d'une image par l'injonction de deux autres images pour ensuite retoucher afin d'en créer une troisième, comme la surprenante photographie d'un homme mannequin de Herbert Bayer. Le collage d'une multitude de vues de ville pour en reconstituer une seule dans la photographie de Paul Citroën, ou pour finir l'incroyable complexité de la superposition de l'œuvre de Raoul Ulbach de 1938, le Conciliabule, dont je retranscris la construction en laboratoire précisée dans la légende de l'œuvre. Voici. Pour construire cette image, Ulbach a soigneusement fait poser et éclairer sa femme, Aggie, et une de ses amies dans son studio. Les images obtenues ont été utilisées dans un collage, une nouvelle composition qu'il a ensuite photographiée et solarisée, entre parenthèses en l'exposant à nouveau à un éclair lumineux, afin de faire disparaître partiellement les formes des modèles. Rappelant les rituels transformatifs des sociétés secrètes, cette masse, emmêlée de chair nue et de chevelure, évoque des impulsions sexuelles et agressives inconscientes, alors que le titre suggère l'idée de secret et de subterfuge. Mais maintenant, nous sommes habitués à toutes ces inventions formelles qui sont quotidiennement utilisées par les photographes, les publicitaires. Mais elles ont une origine qui correspond à des positions vis-à-vis du monde. Aujourd'hui, elles sont utilisées comme des modes formels, sans trop se soucier de ce que cela a pu vouloir dire au moment de leur invention. Une dernière exposition qui se termine le 22 février à la Fondation Louis Vuitton à Paris, et dont vous avez peut-être entendu parler, est consacrée elle aussi à une collection, celle des Morozov, qui présente un ensemble d'œuvres exceptionnelles des impressionnistes cubistes Fauvis, Monet, Cézanne, Picasso, Bonnard, Matisse, Gauguin et tant d'autres, notamment des sculptures de Sergi Konenkov. Irrité quelque peu par le tapage publicitaire de l'exposition, j'hésitais à m'y rendre. Je dois dire que j'avais tort, car la collection est faite de tableaux 10 000 fois reproduits que nous connaissons tous, et d'autres, tout autant magnifiques, mais rarement vus en France, notamment l'ensemble des peintures de Cézanne. La collection est réellement fantastique pour ceux qui aiment se soigner les yeux. Je m'arrêterai ici et je vous invite à suivre une programmation musicale de deux ordres, des chansons françaises engagées et des musiques judéo-arabes illustrant l'exposition Juifs d'Orient. Commençons par la chanson de Georges Brassens, Mourir pour des idées.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand il les voit venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Un peu d'exposition. De mon tour de visite à Paris, j'ai retenu l'excellente exposition « Aérodrome » à la Cité d'architecture et du patrimoine au Trocadéro à Paris qui se terminera le 14 février 2022. L'espace d'exposition n'est pas très facile car il se présente comme un long couloir, pas très large, rendant difficile une lecture confortable de l'exposition. Mais la documentation, la variété des documents, textes, photographies, revues, sons, vidéos, etc., qui illustrent le propos passionnant de l'exposition, sont particulièrement bien choisis et distribués. Le catalogue d'une qualité exceptionnelle pour son contenu, incroyablement documenté, traite avec intelligence du sujet, des premières expériences artistiques aux importantes réalisations architecturales récentes, en passant par les projets utopiques fondateurs des années 1960-70. Au début est le souffle, l'air expiré, qui porte nos fragiles existences, celui des bulles, qui le révèle avant d'éclater, marquant la vanité de nos vies. D'ailleurs, il n'est pas rare de trouver dans les tableaux dits de vanité, du XVIe au XVIIIe, des bulles à côté de crânes, symbole de notre finitude sur Terre. La bulle est bien cette enveloppe fragile qui maintient en équilibre son espace intérieur avec celui de l'extérieur. L'histoire des structures gonflables commence avec l'aérostat, dès le 18e avec les frères Montgolfier et Messin Plâtre de Rosiers qui inventent les ballons éponymes, les montgolfières, dont l'enjeu est de s'élever grâce à l'équilibre entre la poussée de l'air chaud qui élève le ballon vers le haut car plus léger et celle de l'air froid qui l'attire vers le sol. Mais leur vulnérabilité, après la catastrophe du Hindenburg en 1937, annonce la fin de l'aventure des grands dirigeables. De l'après-guerre au début des années 70, les inventions technologiques, celles liées à l'emploi du caoutchouc favorisant la naissance des premières industries du pneumatique, et celles liées à l'ingénierie des structures sous-tendues, permettent d'envisager des modes de construction qui renversent ceux de l'architecture antérieure. La bulle, comme les structures autoportantes de Richard Buckminster Fuller ou de David George Emmerich, définit des formes nouvelles, sphériques, ou pouvant aussi adopter une multitude de formes comme les ballons des foires gonflés à l'hélium, des structures plus souples, plus légères, permettant d'imaginer des espaces dégagés de tout support, des dômes sans piliers, des toits sans charpente. Une structure autoportante se dit d'une structure qui est dénuée de tout support, c'est-à-dire une structure dont les éléments qui la composent assurent à eux seuls la stabilité de la construction par un jeu d'équilibre entre eux. La bulle, par sa tension entre l'intérieur et l'extérieur, s'affranchit de la gravité terrestre en s'élevant, mais y reste soumise et retombe ou éclate dès que les équilibres se rompent. La théorie de la relativité d'Einstein propose une vision élargie de la gravité, qui suit la courbure de l'espace-temps et permet la compréhension de la rotation des astres sur leur orbite et rend possible l'aventure de la conquête spatiale. L'absence de la pesanteur dans l'espace rend la situation de la gravité de la Terre très spécifique. Frédéric Mederoux, en citant le philosophe Lothargique, écrit « Les multitudes références à une archéologie dégonflable répondent, pour Lothargique, à ce moment historique où le discours écologique est le pendant de multiples stratégies de préservation. Les gonflables, tels qu'ils s'affirment sur une période d'à peine une dizaine d'années, comme un véritable phénomène culturel, répondant d'une part à la conscience d'une réfraction de la sphère humaine accentuée par l'aventure spatiale, ainsi qu'à la prise de conscience croissante des problématiques environnementales et écologiques. La conquête spatiale nous fait prendre conscience de la finitude de notre Terre, de son unicité, jusqu'ici encore non démentie, et de la nécessité d'en prendre soin. Car il n'y aura pas de plan B, comme l'affirment aujourd'hui les astrophysiciens. Une Terre comme une bulle bien particulière au milieu de l'univers des galaxies connues et inconnues. Comme une bulle, l'utopie de cette émancipation de la gravité a permis un temps d'envisager de renverser les modalités des constructions traditionnelles. Les premières bulles dômes apparaissent dans les années 20. Frédéric William Lanchester, en 1920, réalise un dôme de 329 mètres de diamètre. Walter Bird met au point les premiers prototypes de dômes gonflables. Frank Lloyd Wright invente des pavillons de vacances gonflables, etc., etc. Fred Otto, 1925-2015, théorise une architecture bionique et critique de l'architecture moderne. Il écrit « Avec les constructions naturelles, on vise à un rendement maximum avec un minimum de matériaux, ce qui est le cas pour les objets de la nature vivante. L'emploi de constructions naturelles ne doit pas être assimilé à l'architecture naturelle. Les enveloppes gonflables peuvent aussi servir de moules pour y projeter du béton et ainsi réaliser des formes sphériques, des coques qui abritent l'espace de la maison, comme la fameuse Bubble House de Hobbs Sound, photographiée par Tacitadine en 1991 alors qu'elle était laissée en déshérence, ou la cupola de Mario Salvadori, habitée par Michelangelo Antonioni et l'actrice Monica Vitti. Certes, ces nouveaux modes de construction ne modifient pas seulement les formes de l'architecture, mais elles engagent aussi une réflexion sur les modes d'habiter. Par sa légèreté, sa souplesse, sa réactivité, la bulle incite à penser son déplacement. Par sa forme close, la bulle est une entité à elle seule, se suffisant à elle-même et pouvant s'ajouter à d'autres. Par l'équilibre dynamique entre l'intérieur et l'extérieur qui la définit, la bulle est un univers dans un environnement dont elle dépend. Ainsi, l'architecture qui va en découler est à la fois mobile dans le temps et l'espace, modulaire, sociale car équilibre entre la sphère privée et publique, et écologique car équilibre entre l'humain et la Terre. Pour expliciter ces qualités, nous analyserons l'œuvre de quelques artistes, pas tant pour rentrer dans une analyse historique, sociale et artistique, ce que l'exposition et le catalogue réalisent parfaitement, que pour les illustrer. La mobilité dans le temps est la capacité pour les gonflables de se gonfler et dégonfler, d'exister qu'un temps, le temps de la mise en tension. L'œuvre de Piero Manzoni, qui présente ses corpi d'aria, corps d'air, 1959-1960, est l'exemple le plus simple et pertinent. Il s'agit d'un ballon posé sur un petit socle que le collectionneur doit gonfler ou faire gonfler par l'artiste. Marcel Duchamp, en 1919, avait encapsulé l'air de Paris dans une fiole en verre. Des artistes comme Akira Kanayama, membre du groupe Gutai au Japon, avec son Giant Balloon de 1957, gonfle progressivement un ballon géant qui vient occuper toute la scène d'un théâtre. Des artistes italiens appartenant au Gruppo T, T pourtant, créent en 1960 l'œuvre Miriorama 1 Gran Oggetto Pneumatico, composée de 7 tubes importants en polyéthylène qui se gonflent et se dégonflent dans l'espace de la galerie Pater à Milan, emprisonnant et libérant successivement les visiteurs qui déambulent dans la galerie. Steve Paxson, un artiste américain, imaginera à New York en 1966 un complexe de structures en polyéthylène gonflable, Physical Thing, sur 2000 m². Une tour, des tunnels que peuvent emprunter les visiteurs, débouchant sur des espaces qui accueillent des danses et des performances, des ambiances sonores, etc. Cet ensemble forme ainsi un dispositif afin que les visiteurs puissent expérimenter physiquement toutes les installations multimédia et les performances des danseurs. La mobilité dans l'espace est la capacité pour les gonflables de se déplacer, comme le font les montgolfières, les ballons d'hélium. Archigram, un groupe d'architectes avant-gardistes anglais, crée une revue éponyme en 1961 et diffuse des projets de capsules d'habitation comme Living Pod de David Green de 1965-67. Puis Archigram développera la ville volante Instant City 1968-70 qui se déplace sur la Terre suspendue à des ballons. Un groupe hollandais, Even Structure Research Group, dans la performance Waterwalk Six Event in Amsterdam 1966, entreprennent à l'intérieur d'une bulle de marcher sur l'eau. Graham Stephen, à Londres, dispose dans les docks Sainte-Catherine des tubes gonflables dont l'un permet au public de marcher sur l'eau. Il propose aussi dans l'œuvre Desert Cloud de 1974 une importante structure gonflable qui flotte portée par l'air et récupère l'eau de la brume par condensation. Un groupe d'architectes radicaux de Vienne, Kopp Immenbloh, déambule dans les rues de Bâle à l'intérieur d'une bulle qui devient autant un moyen de transport qu'un habitat alternatif à ceux qui bordent la rue. L'œuvre se nomme Astro Balloon de 1970, qui n'est pas sans évoquer la conquête spatiale. Comme tous ces quelques exemples montrent, la bulle est bien cet espace autonome qui forme une entité propre. Hans Hollein, un architecte viennois, dans l'œuvre Mobile Bureau de 1969, met en place un bureau mobile, une bulle plastique dans lequel il s'installe avec sa planche à dessin et qu'il place dans un champ, mais qui pourrait l'être tout aussi bien dans une ville. La bulle définit un espace autonome, un espace de travail et qui peut être déplacé, bien sûr, à volonté. L'unité que forme la bulle, comme l'est un conteneur de bateau, implicite qu'elle puisse être dupliquée, multipliée en fonction des besoins, comme les murs des conteneurs de chantier forment de véritables immeubles pour les travaux les plus importants. Fernando Bendito et Carlos Ferrater procèdent ainsi en proposant dans leur manifeste pour le 7e congrès du Conseil international des sociétés de design industriel de construire une ville gonflable, Instant City, à Ibiza en 1971. Ils invitent des personnes présentes à venir élaborer la ville selon leurs propres besoins et désirs, qui grossit par l'adjonction de tunnels et de dômes, etc. Cette modularité de la bulle peut s'exprimer aussi par un ajout d'une unité sur un corps différent. Hans Rückerko et Klaus Pinter, des architectes radicaux viennois, mettent en place une bulle sortant d'une fenêtre d'un bâtiment où deux personnes peuvent venir s'installer pour y percevoir la rue sous leurs pieds. L'œuvre se nomme Mind Expander Balloon for Two. Elle est autant une prothèse du bâtiment qu'un espace visant à percevoir et à comprendre l'espace extérieur autrement. Angela Areiter, formée à l'école des architectes radicaux viennois, invente une bulle Kinderwolken, Children Cloud, pour des enfants en 1966-67, greffée sur deux bâtiments d'une rue, comme une sorte de nuage au-dessus de la rue qui évolue en fonction de leur âge. La bulle apparaît donc comme une entité protectrice, comme une membrane organique qui la sépare de l'extérieur, comme un signal distinct du milieu extérieur par la présence de son enveloppe, comme un espace propre pouvant accueillir des activités diverses, mais aussi des images, des écrits, etc. Cette membrane organique, métaphore des couches de l'atmosphère, fait des structures gonflables des outils critiques écologiques pour dénoncer l'état de notre Terre. Aos Rückerko, dans les œuvres Protected Village 1970, Pneumatic Skin Protect a Farm House Against Pollution 1970, tente de révéler la présence de la pollution de l'air dont il faut se protéger. Günther Domenik et Alfred Hutt imaginent dans le projet d'un hôtel, Floraskin de 1971, d'envelopper les chambres d'une enveloppe plastique comme une membrane organique pour les protéger de l'extérieur. Inversement, le groupe UFO, un groupe italien radical, utilise la surface des structures gonflables pour dérouler des slogans politiques lors d'événements à Florence, les Urbo Ephemero. Sur d'immenses tubes gonflables, ils inscrivent, par exemple, Potellette agli studenti, les pouvoirs aux étudiants, ou Colgate con Vietcong, le Colgate avec le Vietcong. D'autres, comme Yukisha Isobe, imaginent une structure flottante sur laquelle est projeté un film, Floating Theater de 1969. D'autres, comme Franco Mazzucchelli, disposent des structures gonflables dans la rue qu'ils laissent à la disposition des habitants et qu'ils nomment Abandoni, 1964-1969. Arm Farm, un groupe américain, conçoit des structures gonflables, coussins, bitacs pour accueillir des manifestations culturelles comme des festivals, des workshops, etc. Cedric Prince et Joan Littlewood imaginent le Fun Palace à partir de 1960 pour accueillir tout un programme sur 10 ans d'activités culturelles et éducatives très variées. Ces recherches des interactions entre les êtres, entre eux et leur environnement, trouvent dans les structures gonflables, pour un moment, un outil critique nécessaire pour dénoncer la rupture d'un monde consumériste, capitalistique avec son environnement, la Terre, mais aussi l'autre être qui est à côté de lui. L'utopie des années 60-70 vient encore de la transparence de la membrane en polyéthylène de ces structures gonflables, mais initie un mouvement de fond portant la question de l'environnement, celui de l'autre, de la complexité de l'être humain, de ses équilibres psychophysiologiques et sociaux, et celui de notre milieu terrestre, de l'écologie. Frédéric Miguerou écrit « La question de l'environnement et celle du contexte tout aussi bien psychophysiologique que social et politique reste centrale, interrogeant autant la sphère individuelle que l'espace public, le domaine politique ou encore, plus largement, celui du climat et, par extension, de l'écologie. Au-delà du développement du champ technologique et de l'avènement d'une culture média, la notion même d'une conscience étendue, extended mind, est directement liée au concept développé par Gregory Bateson dans le cadre des conférences de Massy où les mathématiciens, logiciens, anthropologues, sociologues et psychanalystes ont tenté de définir une approche globale des interactions entre individus et société. La prise en compte du réseau de communication qui relie l'homme à son environnement induit ce que Bateson nommera une écologie de l'esprit, où le processus mental émerge d'une interaction entre différents éléments, une interaction similaire à celle qui anime les grands écosystèmes. Alors que les grandes interrogations qui ont sous-tendu le mouvement d'alternatives sociales et politiques et la séquence historique qui a vu l'expansion d'un recours au gonflable s'affirme avec acuité, les créations d'artistes ou d'architectes contemporains semblent plus s'établir comme des références à une période où le gonflable était le marqueur d'une rupture, d'un changement d'ordre de la conscience individuelle et collective. Les préfigurations d'un univers dominé par la cybernétique ont laissé la place à un datascape universel. Les questionnements balbutiants sur l'environnement qui se sont commués en une inquiétude mondiale face au climate change ont remis en scène les expérimentations du passé. Le gonflable porte en lui sa propre négation. Il n'aura été que le témoin d'une rupture qui s'est inscrite sur une séquence historique d'à peine quelques années, contemporaine de l'universalisation des réseaux et des médias, une sécularisation où la bulle laissera place au cloud, à des nuages ayant perdu toute qualité morphologique, dénués de valeur psychologique des nimbus de Gaston Bachelard ou de la signification sémiologico-structurale que leur accordait Hubert Damisch, pour n'être plus que le moment de convolution d'un champ d'information, d'une constellation de data. La pertinence de ces propos nous montre combien nous sommes passés d'un monde léger qui, comme le dit Valentina Moinas, suscite aussitôt une fascination profonde chez tout en chacun, à un monde insaisissable, un espace diffus et circulant à la milliseconde qui relève d'une grande complexité, laissant l'individu face à lui-même, se projetant dans le miroir du flux des réseaux. J'ai bien conscience que ce compte-rendu de l'exposition ne rend pas la richesse et la pertinence de ce qu'elle développe, mais j'espère quand même qu'elle vous aura fait toucher du doigt un moment de l'histoire de l'art contemporain, un moment de rupture entre la fin d'un espace en plan et volume, un espace de la gravité, pour un espace spatial annonçant l'espace cybernétique auquel succédera l'espace des data. La cybernétique se définit comme la science qui étudie les mécanismes de communication et de régulation dans les machines et chez les êtres vivants. Lucio Fontana, un grand artiste italien, renverse la conception de la planéité du tableau dans ses œuvres Concetto Spaziale. L'artiste, avec un objet tranchant, coupe une toile monochrome, donnant à voir la béance, le vide que laissent transparentes les deux lèvres de la toile percées. L'artiste écrit « Le volume est désormais réellement contenu dans l'espace, dans toutes ses dimensions. Nous abandonnons la pratique des formes de l'art connues et nous défendons l'idée d'un art basé sur l'unité de l'espace et du temps. La construction des formes volumétriques en mutation se fait au moyen d'une substance plastique et mouvante. Disposée dans l'espace, elle se révèle en tant que forme synchronique et intégrant des images dynamiques. Le milieu, c'est le vide, la fin du fer dans les galeries avec le tableau accroché. Ainsi, le gonflable apparaîtra comme la critique de l'espace pictural, comme surface plane, et annonce le temps de ce vide intersidéral qui renverse le simple espace gravitationnel de la Terre, comme si l'expansion de l'univers ouvrait un champ immense d'expérimentation sensorielle pour l'homme. Frédéric Miguérou, en citant Hölzelein, écrit « Hölzelein décrit de façon similaire cette expansion de l'homme au travers d'un univers média, composé d'environnements technologiques, qui sont en relation étroite avec le corps et qui existent sous une forme très compacte comme les casques de pilotes d'avions supersoniques. Une telle indépendance par rapport à l'environnement construit offre l'opportunité d'étendre tous les sens et les fonctions du corps. Ainsi, comme le dit le groupe Kopp Immenblo, notre architecture n'a pas de plan physique mais un plan psychique. Il n'y a plus de murs. Nos espaces sont des ballons palpitants. Notre pouls devient l'espace et notre visage la façade de l'immeuble. » Hand Farm, le groupe américain, ne dit pas autre chose. Déplier, gonfler et se voir les uns les autres au travers d'un ballon, noir, blanc, rouge, peut aider à faire tomber le mur des présupposés entre les individus et leur permettre de développer leurs propres capacités pour leur indiquer que leur capacité à concevoir l'espace est entre leurs mains. Cette émancipation de l'espace tridimensionnel, solide, comme le rêvaient les artistes et les architectes de cette période, se heurte aujourd'hui à la dissémination de l'être dans l'espace-temps des data. Là où ils envisageaient la capacité pour chacun de concevoir son espace, ce sont les algorithmes des réseaux sociaux qui tentent aujourd'hui à enfermer chacun dans une bulle identitaire. Écoutons maintenant Babylon Circus, les oiseaux de passage.
Dites-moi où je loge, à quel héritage, à quelle horloge, dans quel passage. Dites-moi, on rentre où, trottoir ou trop tôt, dans quel trou, quelle bouche de métro. Où vont les oiseaux de passage? Pour moi, plus de quai. Plus aucun de ticket. Où sont déposés vos bagages? Dites-moi. Dites-moi, quelle horloge, quel héritage. Trop de balcons et trop d'étages. Trop de portes, trop de barreaux. Trop de trottoirs, trop de trottoirs. On rentre où? Dans quel trou? Dans quel voyage? De quel gare? Des triages. Où vont les oiseaux de passage? Pour moi, plus de quai, plus aucun de ticket. Où sont déposés vos bagages? Dites-moi.
Sur quel chemin qu'on rit, dites-moi où s'en va le vent, d'ailleurs c'est quand qu'on descend, et comment.
Où vont les oiseaux de passage?
peu d'exposition. Après avoir consacré beaucoup de temps à l'exposition Aérodrome, je vais vous parler d'une exposition d'une autre nature, dont je vous recommande aussi la visite. Juifs d'Orient, une histoire plurimillénaire, qui a lieu à l'Institut du Monde Arabe à Paris jusqu'au 13 mars 2022. Cette exposition s'inscrit dans un ensemble d'expositions à l'Institut du Monde Arabe consacrées aux religions monothéistes. L'islam, Hajj, le pèlerinage à la Mecque et trésor de l'islam en Afrique, le christianisme, chrétien d'Orient, et la religion juive, juif d'Orient. Cette dernière religion est de loin la plus ancienne des religions monothéistes, si on exclut le culte d'Aton au temps du pharaon Akhenaton 1370-1338 avant Jésus-Christ, mais elle est aussi le point de départ des deux autres. La lecture du livre Moïse et le monothéisme de Freud de 1939 en traite. Jésus est juif et Mahomet reconnaît en Jésus un important prophète. Les séries « L'origine du christianisme » en 10 épisodes de 2003 et celle de « Jésus et l'islam » en 7 épisodes de 2015 de Jérôme Prieur et Gérard Mordilla détaillent précisément à travers la lecture de textes, la Bible, le Coran, cette histoire. Elles sont disponibles sur la plateforme Arte TV et sont vraiment des documents absolument passionnants. Ces religions sont profondément liées à la revendication d'un Dieu unique, ce sont des religions monothéistes. Par leur histoire et les textes qui les fondent, juifs, chrétiens, musulmans parlent du même Dieu et leur construction théologique emprunte à celle qui la précède. Le passage entre juifs et chrétiens semble évident. Jésus est juif et les chrétiens sont une secte juive avant de s'en éloigner. Mahomet s'est réfugié à Médine en 622, date zéro du calendrier musulman, où étaient installées plusieurs tribus juives depuis plusieurs siècles. Le Coran fait une large place à Jésus et à Marie. Il est juste de parler d'une histoire plurimillénaire pour la religion juive qui daterait d'environ 1200 avant Jésus-Christ et qui s'est développée et installée sur le pourtour de la Méditerranée, le long de la péninsule arabique et l'Euphrate jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire de cohabitation plus ou moins mouvementée, d'adaptation, d'affirmation de leur religion et d'exil. L'exposition se construit selon une logique historique linéaire et une visée pédagogique afin de ne pas prêter flanc à des polémiques dont on imagine très bien qu'elle n'ait pas besoin de beaucoup de combustible pour s'enflammer. Une exposition en apparence neutre, objective et didactique, cependant le choix et la richesse des documents, des objets et des vidéos, si l'on y prête attention, s'avère très politique, susurrant que cette longue histoire de cohabitation entre ces religions, souvent augmentée, pourrait s'imaginer au regard de sa longévité un avenir apaisé. Car cette histoire est celle d'origine conceptuelle commune, celle d'une certaine porosité des arts et celle d'un vécu commun au cours de plusieurs siècles. Pour illustrer ce propos, je retiendrai l'incroyable fresque de la synagogue de Doura Europos, 3e siècle après Jésus-Christ, dont les représentations picturales évoquent l'art paléo-chrétien. Je note que c'est la représentation d'une partie de cette fresque qui a été retenue comme la photographie d'appel de l'exposition, couverture du catalogue, du livret et des affiches, et non un élément visuel signe de la judéité immédiatement reconnaissable, telle la menorah, le chandelier à 7 branches, présente sur de nombreux objets et documents de l'exposition. Je retiendrai aussi le recueil des traités de médecine d'Hippocrate, Maïmonide et Galien, écrit en langue judéo-arabe, 1345-1348 après Jésus-Christ bien entendu, qui présente une organisation de la page comprenant des enluminures appartenant au monde médiéval européen. Je retiendrai les robes de mariée, celles de Bagdad 1904 et celles ottomanes fin 19e, début 20e de l'exposition, dont les décors appartiennent à la tradition ornementale arabe. Mes connaissances limitées sur un si vaste sujet ne me permettent que de relever quelques points développés dans le catalogue de l'exposition. L'histoire du peuple juif est une succession d'exils entrecoupés de cohabitations plus ou moins sereines. Tout le monde connaît l'histoire biblique de la fuite du peuple d'Égypte, conduit par Moïse, qui traverse la mer Rouge à pied, poursuivi par les chars du pharaon, englouti par les eaux après son passage. Le peuple s'installe en Judée et le roi David fait construire le premier temple de Jérusalem. Sa destruction en 587 avant Jésus-Christ provoque l'exil de la population juive à Babylone. Certains reviennent et d'autres essaiment sur le pourtour méditerranéen. Un second temple est reconstruit, mais il sera détruit en 70 après Jésus-Christ par les Romains à la suite des répressions du IIe siècle. À nouveau, les Juifs se dispersent dans tout l'Empire romain, de Londres en Crimée, de Tanger en Anatolie. Cette diaspora se fait discrète, mais se forge une forte identité grâce à une pratique assidue de leur religion et une lecture régulière de ses textes fondamentaux. Lors de la poussée des musulmans sur tout le pourtour méditerranéen, se met en place un accord, le Dhimmi, 717-720, après Jésus-Christ, qui reconnaît le droit aux peuples non musulmans de pratiquer leur religion, à la condition de ne pas apporter d'aide à l'Empire byzantin, mais bien que ce peuple reste sous la domination du pouvoir musulman. Mais sa situation est préférable à celle qu'il aurait eue sous un pouvoir byzantin qui organisait des conversions forcées. Le Dhimmi sera abandonné au XIXe siècle à la suite du rayonnement des idées de la Révolution française et de la dislocation de l'Empire ottoman sous les coups de butoir de la colonisation, principalement française et anglaise. Ce statut durera 12 siècles et assurera une cohabitation claire, même si elle est inégalitaire, entre juifs et musulmans, et plus ou moins sereine, bien que ces derniers parfois conduisirent des politiques plus répressives. De fait, juifs et musulmans occupent pendant des siècles le même espace, suivent le même destin, adoptent la même langue, l'arabe. La conquête du territoire espagnol wisigoth par les musulmans en 717-726 installe progressivement au fil des siècles une riche culture arabo-juive au sein de pouvoirs musulmans devenus plus indépendants. D'autres communautés juives essaiment dans l'Espagne chrétienne reconquise. Mais ils devront en partir en 1391 suite à une vague de persécutions. Lors de la reconquête totale de l'Espagne de la chute de Grenade en 1492 par les rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand II d'Aragon, ils seront tous expulsés. De nouveau, ils vont essaimer en Europe, au Maghreb, en Égypte et en Judée. La dernière période d'exil, et peut-être la plus radicale, aura lieu au XIXe, XXe siècle. Suite à la révolte des nationalismes arabes face à la colonisation. Sur le million de juifs en 1945, il n'en reste plus qu'une trentaine de mille entre la Turquie, l'Iran et le Maroc. La majorité d'entre eux ont trouvé asile en Israël, en France et au Canada dans une moindre mesure, quittant les pays qui, depuis des siècles, étaient les leurs. Cette histoire plurimillénaire d'exil explique la conscience de la précarité de leur existence, de la nécessité de préserver leur religion et de leur permanente adaptation au contexte extérieur. L'incroyable découverte de la Geniza de l'ancienne synagogue Ben Ezra de Fusta, qui est un quartier de l'ancien Caire, en témoigne. Une Geniza est une pièce scellée dans laquelle on déposait année après année toutes sortes de manuscrits, livres, textes religieux, philosophiques, mais aussi de la vie quotidienne, contrats commerciaux et de mariage, etc. Celle de la synagogue Ben Ezra fut active du Xe jusqu'à la première partie du XIIIe siècle et contenait empilés les uns sur les autres 380 000 feuillets. Outre qu'elle constitue une magnifique ressource pour tout historien étudiant cette communauté juive au Moyen-Âge, elle est significative de ce besoin de conserver pour l'avenir tout ce qui pouvait apparaître important, religieux ou profane, au cas où des événements malheureux auraient pu intervenir. Car il ne s'agit pas d'une archive consultable, mais bien d'un lieu de préservation d'une histoire d'une communauté qui a pleinement intégré la précarité de son existence, bien qu'à cette époque, leur cohabitation avec les musulmans ait été relativement sereine. Imaginez une pièce aveugle avec en haut une seule ouverture, des papiers empilés les uns sur les autres, formant une stratigraphie de documents comme celle de couches archéologiques. De même, les synagogues sont quasiment invisibles de l'extérieur, marquant à la fois un besoin de protection par une absence d'ostentation et en même temps la solidité, la solidarité de la communauté religieuse. Dominique Jarassé, dans son texte « La synagogue du Maroc à l'Ouzbékistan », inclus dans le catalogue de l'exposition, écrit « Née durant l'exil à Babylone, après la destruction du temple, la synagogue n'en est pas un substitut, comme cherche à l'être l'Église catholique. Elle est un simple lieu d'assemblée, comme la mosquée, un espace pratique, sans principes architecturaux fixés par la loi. Seule s'impose la séparation des hommes et des femmes, et si possible, l'orientation vers Jérusalem. Aussi présente-t-elle une plasticité qui lui a permis de s'intégrer à toutes les cultures et d'adopter les styles les plus divers. Les synagogues du Maroc à l'Ouzbékistan varient au gré de la diversité des cultures locales, voire des contextes musulmans, chiites ou ibadites, et suivent les modes constructifs vernaculaires. Mais elles gardent certains points communs, comme la discrétion, voire l'invisibilité, en lien avec la dhimmitude et une organisation interne très simple. Ainsi, le catalogue est édifiant car il démontre comment les objets de ces communautés juives d'Orient adoptent les principes stylistiques ambiants, les langues, arabes dans l'Empire musulman, le français et l'anglais des colonisateurs, les modes de vie, vêtements, cuisine, tout en conservant le cœur de ce qui constitue leur identité juive, la religion et ses signes. La menorah, chandelier à sept branches, que l'on retrouve très tôt, qui figure sur une pièce de bronze du règne d'Antigone, 40-37 avant Jésus-Christ, l'hexagramme, l'étoile de David à six branches tristement célèbre, l'écriture et les textes religieux, le Talmud, dont la lecture est régulière et domestique. Il est frappant de voir David Zabari, un juif yéménite, lire le livre saint à l'envers, afin que ceux qui sont en face puissent le faire aussi. Partage de la prière, de la lecture, donne force à la communauté pour affronter leur fragile position. Jamais d'ostentation ou d'affirmation d'un style, seule la marque répétée de signes immémoriaux de l'écriture hébraïque guide indéfectible de l'identité juive. Cette solidité interne leur permet de s'adapter à une variété de cultures qu'ils contribuent à développer quand les conditions de cohabitation semblent sereines. Colin Housset, dans son texte du catalogue « Musique, représentation, identité », détaille leur influence au XXe siècle dans l'espace musical musulman. Je la cite. « D'Essaouira à Koweït, en passant par Alep et Alexandrie, les communautés juives se sont développées de longue date dans les villes arabes, donnant par la multiplicité des interfaces et des circulations naissance à une musique métissée. Trois cas se distinguent. Au Maghreb, tout d'abord, la chute de Grenade en 1492 provoque l'expulsion des populations juives et musulmanes d'Espagne qui trouvent refuge dans les villes impériales marocaines ainsi que dans les centres urbains situés au nord de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Elles y développent une tradition profane dérivée de la musique et de la poésie classique arabe et andalouse, matinée d'influence religieuse. À titre d'exemple, les piyoutim, chants liturgiques juifs en arabe ou en hébreu, très développés dans le monde arabe, ont connu un âge d'or en Espagne musulmane, sous l'influence notamment de la qasida, une forme poétique bédouine. À Bagdad, ensuite, le makam, terme qui dans ce contexte réfère à la musique savante urbaine, donc ce makam irakien, connaît son âge d'or dans la première moitié du XXe siècle, sous l'influence de musiciens de confession juive, comme les frères Daoud et Saled El Koweiti, Youssef Zaharour et la chanteuse Salima Mourad, extrêmement appréciée sous la monarchie. En Égypte, enfin, centre de l'industrie musicale et cinématographique arabe du XXe siècle, des facteurs similaires contribuent à la popularité d'artistes comme le compositeur Zaki Mourad ou les chanteuses et actrices Leila Mourad, Saouad Zaki. La majorité, cependant, à l'instar du reste de la communauté juive, prend le chemin de l'exil pour Israël, l'Europe de l'Ouest ou, dans une moindre mesure, l'Amérique du Nord. En France, notamment, chanteurs et musiciens comme Lily Boniche, Lynn Monti, Renette Loranaise ou encore Cheikh Raymond continuent d'être écoutés hors du cadre strict communautaire à la faveur de la variété judéo-arabe, franco-arabe ou encore méditerranéenne. La chanson « Ya Mustapha » est un exemple de cette variété méditerranéenne qui floute les frontières et les appartenances. Initialement égyptienne, elle est popularisée en France au gré des reprises de Dario Moreno, Bob Azam ou encore Alberto Staifi, artistes respectivement d'origine turque juive, libanaise et pieds noirs d'Algérie. Voici un modeste aperçu de la richesse des thèmes abordés par l'exposition que je vous invite une nouvelle fois à visiter. Écoutons un extrait de Essa Enai, The Song of a Piyutim. « Maintenant, un extrait de Salima Mourad. Nous allons écouter donc la chanson Aïe Mustapha, interprétée par Daria Moreno, puis Bob Azam, puis Alberto Saifi.
Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa de...